Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Maxime Cochard, candidat PCF sur la liste Paris en commun dans le 14e arrondissement de Paris. Vous publiez par ailleurs « Nous n'avons pas besoin des riches », un essai publié par les éditions Arcane 17. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous soutenez donc la nouvelle candidature d'Anne Hidalgo et la maire sortante du 14e arrondissement, Karine Petit. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cet arrondissement, le 14e arrondissement de Paris? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes un habitant de ce quartier?
Alors, c'est un arrondissement qui a une spécificité, je dirais, c'est que c'est un triple arrondissement. Il y a trois 14e, en fait. Puisque quand vous vous baladez dans ce quartier de Paris, donc le sud de Paris, vous avez à la fois des quartiers très très bourgeois, juste en dessous du jardin du Luxembourg, l'avenue de l'Observatoire. Donc là, on est vraiment dans le Paris des très beaux quartiers. Si vous descendez un peu, vous avez des quartiers plus bobos, comme on dit, avec un peu plus festif, avec un électorat urbain, écologiste, etc. Et puis, si vous descendez un peu plus bas encore, au niveau des portes, vous avez des quartiers populaires, des quartiers prioritaires, comme on dit dans le jargon, avec énormément de logements sociaux. Et donc, vous avez ces trois réalités dans le même arrondissement. Et je pense que c'est pas tous les arrondissements parisiens qui ont cette diversité.
Donc, il y a une diversité à la fois sociologique, culturelle. C'est un arrondissement qui vote généralement à gauche.
C'est un arrondissement qu'on dit tangent, c'est-à-dire effectivement il vote à gauche depuis plusieurs années maintenant, mais en même temps c'est un arrondissement qui est en réalité un peu à bascule, comme on dit. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, vous avez deux députés qui sont des députés macronistes. Donc c'est un arrondissement stratégique et qui a permis la bascule de la ville à gauche lors de l'élection de Bertrand Delanoë en 2001. Donc c'est un arrondissement qui est particulièrement important à nos yeux et qu'on souhaite évidemment garder à gauche lors de ces municipales qui arrivent.
Et vous rappelez qu'il y a deux députés La République En Marche dans l'arrondissement. Aux dernières élections européennes, La République En Marche est arrivée en tête dans le 14e arrondissement.
Absolument, comme dans beaucoup d'arrondissements parisiens. Il faut dire aussi que la gauche était particulièrement divisée, ce qui n'aidait pas à permettre qu'elle arrive en tête.
Alors pourquoi, selon vous, Anne Hidalgo est-elle la meilleure candidate pour diriger Paris?
Je pense qu'Anne Hidalgo a un très bon bilan. Elle a un très bon bilan parisien. Qu'elle a beaucoup fait pour cette ville, qu'elle a senti un certain nombre de choses comme la nécessité de réduire la place de la voiture dans la ville, la nécessité aussi de permettre que les gens qui travaillent à Paris puissent continuer à y vivre, parce que c'est quand même ça l'enjeu numéro un. C'est quand on voit l'envolée des prix des logements, quand on voit la force de la spéculation immobilière, eh bien moi je crois que c'est très très important de soutenir la candidate qui a permis de construire de nouveaux logements sociaux, de faire en sorte qu'on soit proche maintenant de 23% de logements sociaux à Paris, que je rappelle qu'on était à 13% au moment où Bertrand Delanoë arrive aux commandes de la ville de Paris, il y avait seulement 13% de logements sociaux. Et en plus, des logements sociaux qui étaient attribués dans des conditions que vous connaissez, avec des affaires, etc. Donc là, il y a eu un effort de mixité sociale qui a été fait par la gauche, et notamment par Anne Hidalgo avec Yann Brossa, qui est son adjoint en charge du logement. Et je pense que ça, c'est très très important de continuer dans cette voie, parce que sinon, Paris ne sera plus accessible aux classes moyennes, aux classes populaires, et c'est déjà d'ailleurs très difficile, et c'est pour ça qu'il faut continuer et accélérer.
Alors Paris, une ville sale, avec des trottoirs qui deviennent dangereux pour les piétons, une ville où il y a des embouteillages, des conservatoires accessibles seulement par tirage au sort, c'est le constat que font les adversaires d'Anne Hidalgo et que nous recevons régulièrement aussi dans cette émission. Est-ce que ce sont des critiques injustes ou bien c'est aussi le reflet d'une certaine réalité ?
Alors il y a de tout là-dedans. Il y a une réalité, par exemple Paris est une ville extrêmement attractive, donc oui, il n'y a pas de place pour tout le monde dans certains services publics, etc. Ça, ce sont des réalités qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs, et puis on fait en sorte, nous au contraire, de construire de nouveaux services publics. Je pense par exemple, vous citez les conservatoires, il y a un tout nouveau conservatoire qui vient d'ouvrir dans le 14e arrondissement, très beau, tout neuf, et c'est pas le problème n'est pas seulement la question du tirage au sort, le problème est la question de l'accès en fonction du milieu social, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des milieux sociaux qui ont plus de difficultés à accéder à ce type de structure. Donc c'est là-dessus, je crois, qu'il faut agir d'abord. Mais justement, on crée de nouvelles structures. Ça, c'est très important. Alors que dans certaines autres villes, on ferme des services publics. À Paris, on crée des services publics. On en construit, on en inaugure. Ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement précieux.
Alors Paris, une ville sale. Vous avez entendu le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, qui parle souvent des rats qui prolifèrent dans la ville. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique récurrente sur la saleté ?
Alors, j'ai envie de répondre quelque chose qui n'est pas très politiquement correct. Ça fait 35 ans que je suis parisien. J'ai pas le sentiment, moi, qu'il y ait d'énormes changements en la matière. Et surtout, sur la question des rats, on sait très bien que les rats à Paris, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. On sait qu'il y a des causes objectives, par exemple, de l'apparition des rats. Il y a eu la crue de la Seine, il y a eu les travaux qui ont remué les sous-sols et qui ont fait que ces animaux sont remontés à la surface. Donc moi, je pense que c'est démagogique de prétendre qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton pour en finir avec ces problèmes, qui sont des problèmes structurels. Si on avait des moyens immédiats de rendre Paris étincelante de propreté et dépourvu de rats, évidemment, on l'aurait fait depuis longtemps. Il y a quand même une proposition très forte d'Anne Hidalgo pour cette nouvelle mandature, c'est de doubler le budget propreté, puisqu'on passerait de 500 millions à 1 milliard d'euros. C'est quand même un signal très fort sur l'idée que c'est notre priorité pour la prochaine mandature, s'attaquer à cette question de la propreté. Et je remarque que c'est une question sur laquelle les gens de droite tout à coup ne croient plus en la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que normalement, ils nous disent que ce sont les gens qui doivent se contrôler eux-mêmes, etc., se responsabiliser. Et là, ils n'ont plus ce discours qui consiste à voir que il y a aussi un problème chez les certains qui se permettent de salir aussi bien l'espace public, les parties communes des HLM, etc.
Mais ça existe. Ils vous répondent, ces candidats, qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux pour verbaliser les gens qui commettent des incivilités.
Je pense que c'est avant tout un problème de, plus exactement, de moyens pour nettoyer. Avant de verbaliser, il y a d'abord la question du nettoiement elle-même. Et puis, sur la police municipale, vous savez qu'Anne Hidalgo a la volonté de créer cette police municipale. Donc, c'est une question qui, je crois, ne peut plus être soulevée de la part de l'opposition.
Est-ce que les embouteillages à Paris sont créés volontairement par Anne Hidalgo pour inciter les automobilistes à fuir Paris ? C'est une question qui vous paraît peut-être un peu démagogique, mais c'est ce qu'on entend régulièrement.
En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que on a fait le choix, et on l'assume, de baisser la place de la voiture à Paris.
Pour des raisons de santé, notamment.
Pour des raisons de santé, parce qu'on sait très bien que les voitures, ça engendre de la pollution, que la pollution, ça engendre des maladies respiratoires, ça engendre des problèmes de santé très graves, avec des morts à la clé. Et donc, on assume parfaitement de réduire la place de la voiture à Paris. Ça veut dire réduire les axes de circulation. Vous savez que la voiture, c'est une minorité des déplacements et que pourtant, ça grignote une majorité de l'espace public. Donc là, il y a un problème. Et donc, je crois qu'il est parfaitement logique et légitime de diminuer la place de la voiture à Paris. Et pour ça, effectivement, ça crée des embouteillages. Mais à terme, ça produit des effets puisqu'on constate qu'il y a moins de voitures qui circulent aujourd'hui.
Maxime Cochard, c'est sous le mandat d'Anne Hidalgo que des multinationales qui paient très mal leurs employés et paient peu d'impôts ont prospéré. Uber, Airbnb, les loueurs de trottinettes. En tant que communiste, j'imagine que ça vous déplaît fortement. Pourquoi il n'a pas été possible de contrer ces grosses sociétés qui apportent des services, certes, mais qui créent aussi beaucoup de nuisances?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un phénomène mondial. C'est évidemment pas qu'à Paris qu'il y a toutes ces entreprises qui se sont installées et qui sont venues effectivement cannibaliser un petit peu l'espace public. Ça existe dans toutes les métropoles du monde. Donc là, c'est pas parce que, si vous voulez, vous avez une majorité de gauche que vous allez réussir à contrer un phénomène à ce point-là, une telle vague, quoi. Donc évidemment, nous, on est inquiets et on souhaite réguler au maximum ces différentes plateformes qui précarisent leurs travailleurs, qui cannibalisent l'espace public, qui créent un certain nombre de nuisances diverses. Particulièrement, moi, je pensais surtout à Airbnb, multinationale californienne, qui fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de logements disponibles pour les Parisiens, puisque les propriétaires sont incités, les investisseurs sont incités à les mettre à la location seulement pour les touristes. Donc là, ce sont des sujets qu'on connaît bien et sur lesquels on essaye d'être le plus actif possible en augmentant le niveau de régulation. Évidemment, ça suppose quand même, c'est important de le préciser, que ce soit la loi qui bouge. C'est-à-dire que la ville comme Paris, la capitale, même si on est la capitale, nous n'avons pas les outils qui nous permettent aujourd'hui de faire face efficacement à ces plateformes, à ces multinationales. Et donc, c'est pour ça qu'on demande régulièrement, et Anne Hidalgo le fait, au gouvernement de nous donner ces possibilités d'agir.
Ce sera un des enjeux de l'élection présidentielle, j'imagine.
Ce sera un des enjeux de l'élection présidentielle, mais il y aurait une possibilité de faire sans les élections présidentielles. Ce serait tout simplement de donner aux municipalités, aux métropoles, les compétences pour, par exemple, mieux réguler, voilà, la circulation des trottinettes, mieux réguler l'utilisation d'Airbnb, mieux réguler Uber et toutes ces plateformes.
Maxime Cochard, vous avez salué tout à l'heure le bilan d'Anne Hidalgo et Yann Brossa sur la question du logement. La maire de Paris est prête à réquisitionner des logements vides lors de son deuxième mandat?
Alors, la réquisition est un pouvoir qui appartient au préfet. Donc, en réalité, pas à la maire, même si on souhaite, aussi bien Yann Brossa que Anne Hidalgo, pouvoir effectuer ces réquisitions, puisqu'il y a régulièrement des vœux qui sont votés au Conseil de Paris qui demandent à ce que, effectivement, l'État, le gouvernement, le préfet puissent réquisitionner tel ou tel immeuble vide dans Paris pour loger des sans-abri, pour loger des gens qui en ont besoin. Eh bien, pour l'instant, le préfet ne se saisit pas de cette possibilité qui est pourtant dans la loi. Hein. Il y a deux lois qui autorisent la réquisition. Il y a une loi de 45 et il y a une loi beaucoup plus récente des années 90.
Et Jacques Chirac avait utilisé, absolument, je crois, cette loi.
Il y a eu une tentative, effectivement. Depuis, ça a toujours été très difficile à mettre en place. Nous continuons de demander cette solution parce que c'est inacceptable que dans certains quartiers parisiens, il y a jusqu'à 25% des surfaces qui sont vacantes. Pourquoi ? Parce que ça peut être des résidences secondaires, ça peut être des logements vacants, ça peut être du Airbnb sous-utilisé, etc. Et donc dans certains quartiers parisiens, vous avez des logements vides alors qu'il y a des gens qui dorment dehors. Et nous, on pense que c'est pas admissible.
Maxime Cochard, qu'est-ce que vous avez pensé du projet de Benjamin Griveaux de transformer la gare de l'Est en gigantesque parc au cœur de Paris ? Vous avez de la chance, il n'a pas parlé de la gare Montparnasse qui est dans votre arrondissement.
Qui est à cheval entre le 14e et le 15e, oui. Eh bien, j'ai été stupéfait et je me suis dit, on ne peut même pas commenter un tel projet parce que c'est déjà le considérer avec sérieux. Et je trouve que c'est un projet qui manque complètement de sérieux. Parce que d'abord, il avait dit quelques jours avant, il avait répondu à Cédric Villani qui avait formulé une proposition du même type sur la gare de l'Est. Il lui avait dit
sur la gare du Nord.
Il lui avait dit on ne décide pas d'un tel changement sur un coup de tête. Et puis quelques jours après, lui-même propose un big bang comme ça qui n'a aucun sens et qui nécessiterait quand même qu'on consulte les communes voisines, qu'on consulte la SNCF, qu'on consulte la région qui est l'autorité qui gère les transports et les gares, etc. Il n'a consulté personne. Il a proposé ça pour essayer de faire un coup médiatique, mais je crois que vu les réactions, le déluge de réactions à la fois catastrophé et amusé, bah manifestement c'était pas la bonne proposition.
Maxime Cochard, un mot de votre ouvrage Nous n'avons pas besoin des riches aux éditions Arcane 17, un livre où vous déconstruisez les arguments qu'on entend souvent dans les médias pour justifier les mesures qui favorisent les grandes fortunes. L'un des arguments qu'on entend souvent, c'est que arrêter de taxer les riches, il faut arrêter de taxer les riches, sinon ils vont quitter la France. Pourquoi c'est faux selon vous ?
Alors c'est faux parce que en réalité les riches d'abord pour une partie d'entre eux quittaient déjà la France avant qu'on réduise leurs impôts, c'est-à-dire que l'exil fiscal c'est quand même un sport international pratiqué par les grandes fortunes et les multinationales dans tous les pays, pas seulement en France d'ailleurs, et y compris dans des pays qui ont des impôts très faibles, qui ont des niveaux d'impôts très faibles. Je pense au Royaume-Uni par exemple. C'est un pays où il y a d'ailleurs la City, hein, cette grande place financière, et donc vous avez au Royaume-Uni des outils fiscaux qui permettent aux grandes fortunes et multinationales de défiscaliser. Par exemple, il y a très peu d'impôts sur le patrimoine grâce au fait qu'il y a des trusts. Donc, y compris dans ces pays où il y a très peu d'impôts, la part de richesse qui est détenue offshore, comme on dit, c'est-à-dire qui est détenue dans les paradis fiscaux, est très forte. Donc on voit que même dans des pays où vous avez de faibles impôts, ça n'empêche pas l'exil fiscal, ça n'empêche pas l'évasion fiscale. Inversement, vous avez des pays où les impôts sont très forts, je pense à des pays comme dans la Scandinavie, donc la Norvège, le Danemark, avec des très forts prélèvements obligatoires, et là vous constatez que la part de richesse offshore est faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien en réalité entre le niveau d'impôt et l'évasion fiscale, donc que c'est faux de faire une relation automatique entre le niveau d'impôt et la fuite des riches.
Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la théorie du ruissellement et pourquoi vous n'y croyez pas ?
Alors la théorie du ruissellement, c'est une théorie économique qui d'ailleurs n'en est pas une, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas réellement, mais elle est beaucoup utilisée par un certain nombre d'hommes politiques qui essaye d'expliquer que en réduisant les impôts des plus riches, en enrichissant les plus riches, eh bien l'argent des plus riches va dégouliner d'une certaine façon sur les classes populaires et les classes moyennes, et que en définitive nous-mêmes allons profiter de la suppression d'impôts sur la fortune, de la suppression des impôts sur le capital, etc. Or, il se trouve que Emmanuel Macron et son gouvernement, même s'ils utilisent cette théorie, n'utilisent pas le mot de ruissellement. Parce qu'ils ont compris que ce mot de ruissellement, je crois, avait quelque chose de trop simpliste et de trop méprisant.
Ils utilisent plutôt les premiers de cordée.
Voilà, c'est ça. Donc ils changent de métaphore, et ça veut dire exactement la même chose, hein, parce que quand vous prenez la métaphore de la cordée, ça veut dire que là aussi, ce sont ceux d'en haut qui nous tirent vers le haut, hein. C'est exactement la même idée, sauf qu'ils s'épargnent le désagrément d'avoir utilisé un terme méprisant qui est celui de ruissellement.
Vous avez écrit ce livre pour tenter de gagner une bataille culturelle autour de cette conception de la richesse, de la pauvreté.
Absolument, c'est une bataille qui est très difficile, ça je l'ai constaté depuis la sortie du livre, vu le nombre de commentaires de gens qui, par rapport au titre, ne serait-ce que le titre, nous n'avons pas besoin des riches, le nombre de réactions outragées, épidermiques de lecteurs, de commentateurs qui ne comprennent pas qu'on puisse dire qu'on n'a pas besoin des riches, ça je veux dire, les gens manifestement ne sont pas habitués à entendre ce discours-là.
Mais concrètement, on n'a pas besoin de François Pinault, on n'a pas besoin de Bernard Arnault, qui possède des entreprises qui ont généré des centaines de milliers d'emplois à travers le monde.
Alors je pense que ces gens se sont enrichis en créant des emplois, et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est par la création d'emplois, c'est en permettant la création de richesses par la création d'emplois qu'on s'enrichit, et non pas parce qu'on est riche qu'on crée des emplois. C'est-à-dire que là il y a une inversion que j'essaie d'expliquer dans le livre qui est très importante. Et puis je vais vous dire, en 20 ans, toutes les études sont d'accord pour dire que les 500 plus grandes fortunes françaises ont été multipliées par 7. Toutes les études convergent là-dessus. Pourtant, sur ces 20 années, on n'a pas constaté de diminution de la pauvreté. Au contraire, l'INSEE nous dit que il y a davantage de pauvreté aujourd'hui qu'hier, et qu'on est même à un niveau record par rapport aux années 70, avec quasiment 15% de Français sous le seuil de pauvreté, 9 millions à peu près. Les inégalités, elles, ont augmenté aussi. L'INSEE le dit de façon très claire, les inégalités sont plus hautes aujourd'hui que dans les années 90. Donc on voit que l'enrichissement des plus riches, ces statistiques en réalité ne profitent pas à l'ensemble de la société. La croissance, elle est très molle aujourd'hui, elle n'est pas. Alors qu'il y a eu cette bulle énorme et que ces gens sont de plus en plus riches. Donc ça ne fonctionne pas.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement, Maxime Cochard? Prendre un peu dans la poche des riches pour le redistribuer?
On constate qu'il suffirait de pas grand-chose d'une certaine façon. C'est-à-dire que ces 500 plus grandes fortunes, ou ces 1%, on va dire, hein, ont tellement accumulé qu'il suffirait de redistribuer un petit peu de cette accumulation pour avoir des bienfaits énormes. Je vous donne une statistique qui était dans le rapport d'Oxfam. C'était pas le dernier, mais c'était le précédent, je crois. Cette ONG donc qui s'intéresse aux inégalités, à l'exil fiscal, qui a montré qu'il suffisait d'augmenter l'impôt sur la fortune de 0,5%. Je parle de l'impôt sur la fortune, des 1% les plus riches au monde. Il suffit de leur prendre 0,5% en plus pour permettre l'accès à la scolarité de 262 millions d'enfants qui aujourd'hui n'y ont pas accès. C'est-à-dire que vous prenez un tout petit peu d'un côté, vous avez des effets énormes pour l'humanité et pour la planète. Donc oui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est répartir ces richesses, c'est changer la façon dont on les produit aussi, permettre plus de démocratie dans les entreprises, permettre aux salariés d'avoir plus leur mot à dire, leur voix au chapitre, et ça peut, je crois, changer profondément l'économie.
Alors je reviens à la campagne à Paris, puis peut-être une question plus personnelle, qu'est-ce que ça signifie être communiste en 2020 à Paris?
Alors, être communiste en 2020, ça signifie justement essayer de d'œuvrer au partage des richesses, essayer de montrer l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'on change la façon de produire des richesses dans notre pays, à ce qu'on répartisse un peu mieux, à ce qu'on mette en place davantage de services publics. Donc, à Paris, c'est très important parce que dans les quartiers populaires, par exemple ceux du 14e arrondissement, vous avez des services publics qui ferment. Des bureaux de poste, des caisses de sécu, etc., des commissariats d'ailleurs. Et justement parce qu'il y a cette pression de la rentabilité, il y a cette pression de la financiarisation, et il y a l'idée qu'il n'y a plus d'argent. Et moi je montre justement dans le livre que de l'argent, il y en a évidemment énormément, et qu'on n'a pas besoin des riches, mais on a besoin des richesses, et que les richesses elles sont là, il faut les prendre maintenant.
Pour quelles raisons les communistes parisiens ont-ils décidé de soutenir Anne Hidalgo dès le premier tour, alors que vous auriez pu par exemple faire alliance avec Daniel Simonet et Vikash Dorasso, qui présente une liste La France Insoumise?
Alors il faut dire que ça fait depuis 2001 que les communistes sont dans la majorité de gauche, d'abord aux côtés de Bertrand Delanoë et puis avec Anne Hidalgo. Donc là on poursuit un chemin, un travail commun qui a été fait. Je signale aussi effectivement que avec Yann Brossa, avec d'autres adjoints, Hélène Bidard, etc., il y a un travail qui a été mené. Donc on s'inscrit dans cette continuité-là qu'on veut accélérer d'ailleurs, mais c'est avec Anne Hidalgo qu'on a choisi de faire ce chemin-là pour continuer à transformer Paris.
Merci Maxime Cochard. Je rappelle que vous êtes candidat PCF sur la liste Paris en commun dans le 14e arrondissement. Et je rappelle le titre de votre livre « Nous n'avons pas besoin des riches », un essai publié aux éditions Arcane 17. Bonsoir.
Merci beaucoup.